C'est bon? C'est bon pour vous? Vous êtes prête? Bon. Eh bien, il manque du monde, mais c'est pas grave. On va être encore plus intimiste. C'est parfait. Bonjour à tous, je m'appelle Miko Meret, je suis professeur de géopolitique des pôles, spécialiste donc de l'Arctique et de l'Antarctique, l'un des seuls bipolaires en Europe, on n'est pas des masses. Et je travaille, comme vous l'avez compris, sur les questions géopolitiques, et à la base, j'étais analyste de marché, donc j'ai une approche qui est quand même très géoéconomique aussi, et je pense que vous allez le voir. Donc, je vous propose de faire une petite présentation aujourd'hui, et puis on m'a demandé très gentiment d'en faire une demain aussi. Donc demain, vous allez voir, on va parler surtout transition énergétique, terres rares en Arctique, hydrogène, etc. Mais là, aujourd'hui, peut-être juste une petite introduction, entre guillemets, aux enjeux géopolitiques en général. Alors, pourquoi je vous propose 2019-2049 ? Parce qu'il n'y a pas qu'une dimension climatique derrière cette timeline-là, il y a aussi une dimension politique, puisque aujourd'hui, si vous allez voir nos amis chinois, ils vous disent, nous, l'Arctique, on l'envisage sous tous ses aspects à partir de 2049. Tout ce qu'on va évoquer maintenant, transport maritime, énergie et ainsi de suite, prendra selon eux sa pleine puissance et vous allez voir que les Japonais, les Sud-Coréens, les Alaskans, les Islandais, du coup, s'alignent petit à petit avec cette timeline-là. Donc 2049 vers un Arctique post-polaire. Alors post-polaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept que je développe dans mon premier livre que j'ai sorti le mois dernier aux presses universitaires de France et qui se veut en fait être un concept qui incarne les défis qui vont être ceux de ma génération. C'est-à-dire que sans présumer de l'âge que vous allez avoir tous les uns et les autres en 2050, en 2049, moi ce que je peux vous dire c'est qu'en 2049 j'aurai 61 ans, donc si je suis encore là, et du coup le véritable problème que les miens et puis ceux qui vont venir après nous allons avoir, c'est que tout ce qu'on évoque aujourd'hui, toute la dimension de changement climatique, transition énergétique et ainsi de suite, et tout ce qui a été évoqué ce matin par les intervenants, notamment par Valérie Masson-Delmotte sur les impacts dès maintenant des changements climatiques, et ben nous, on va non seulement les vivre, mais on va devoir les gérer et on va devoir réinventer le monde là où d'autres peut-être qui aujourd'hui pourraient réinventer le monde ben, ne seront plus là pour le réinventer avec nous. Donc du coup, cette dimension post-polaire, c'est véritablement l'idée d'incarner le fait que l'Arctique est déjà, pour certaines de ces zones, et le sera de plus en plus, un monde qui ne sera finalement plus ce que nous considérons aujourd'hui comme polaire. Donc on va sortir des images d'épinal, de glace, d'ours et ainsi de suite, tout simplement pour parler de zones qui vont être normalisées, qui vont être finalement, entre guillemets, comme les autres. Donc du coup, dans le livre, il y a plein de sujets, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, rassurez-vous, mais cette dimension post-polaire, c'est ce qui englobe tout ça. Donc la véritable question qu'il faut se poser, c'est de savoir, dans ce monde post-polaire, qui sera, ou qui est peut-être déjà aujourd'hui, le véritable maître de l'Arctique ? Alors ouais, il y a un peu une dimension troll dans ce slide, hein, voilà. Mais il faut vivre avec son temps aussi. Hein. Donc du coup, le petit troll qui va bien pour dire qu'aujourd'hui, on a un véritable sujet qui est, est-ce que l'Arctique est russe ? Est-ce que l'Arctique est américain ? Et puis finalement, ce qu'on oublie souvent, c'est de rappeler qu'il y a nos amis sud-coréens, japonais, chinois et autres qui sont derrière et qui sont de plus en plus actifs au point peut-être de supplanter, par exemple, ceux qu'on estime être potentiellement aujourd'hui les dominateurs en Arctique, et en particulier cet homme avec la chevelure blonde. Mais avant de parler de nos amis asiatiques et des peuples autochtones aussi, qu'on ne va surtout pas oublier, un élément clé, c'est qu'aujourd'hui, on se parle au Luxembourg, on se parle à l'invitation de l'ambassade de France, moi-même je suis français, j'enseigne en France, et le véritable problème qu'on a chez nous, mais qui est partout en vérité en Europe, c'est cette idée que quand on parle de l'Arctique et qu'on parle évidemment non pas juste des changements climatiques, mais de tout ce qui va avec d'un point de vue industriel, géopolitique et ainsi de suite, il y a soit de l'indifférence, soit de la moquerie, mais en tout cas des gens qui, du coup, s'engagent moins que ce qu'ils pourraient faire. Et là-dessus, quand Michel Rocard a été nommé ambassadeur des pôles en 2009 pour la France, on a vécu cette période de moquerie, de placard, etc. Personne ne l'a pris au sérieux. Quand Ségolène Royal a été nommée il y a 2 ans, personne ne l'a prise au sérieux. Bon, cette semaine, c'est encore pire. Mais sans faire de politique du tout ici, ce qui est important, c'est juste d'essayer de dépasser ça. Et pour vous dire, ça fait maintenant donc 8 ans que je fais des conférences sur les questions polaires et 8 ans que j'essaye d'intervenir dans les médias, bah, y a très peu de choses qui ont évolué entre-temps sur ces aspects-là. Ce n'est pas votre cas peut-être dans le climat, mais sur les questions industrielles et géopolitiques et encore plus militaires, on y est. Donc, en Arctique, il y a un phénomène fondamental géopolitique qu'il faut avoir en tête au départ de tout, c'est que les peuples autochtones sont notre vigie. Et pas juste une vigie climatique, mais aussi une vigie politique, parce que tous les peuples autochtones de l'Arctique envisagent leur positionnement sur une base à minima binationale. Ici, vous avez donc les 6 organisations qui sont représentatives des peuples autochtones au Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire l'organe représentatif de la région d'un point de vue diplomatique. Que vous preniez le ICC, où vous avez 4 États représentés avec des Inuits du Groenland, du Canada, de l'Alaska, donc États-Unis, et aussi des Inuits de Russie qui ne sont pas reconnus en Russie, mais qui en font partie quand même. Vous avez, avec le Arctic Athabasca Council, des Canadiens et des Américains. Pareil pour le Gwich'in Council International. Pour les Aléoutes, de la Aléout International Association, vous avez des Américains, mais aussi des Russes qui ont été tout simplement, qui sont des familles qui ont été séparées arbitrairement par la frontière. Et puis enfin, vous avez évidemment les Samis, sur la Norvège, la Suède, la Finlande et évidemment la Russie, ce qui pose aujourd'hui beaucoup de problèmes puisqu'il faut bien maintenir de la part des Samis de bonnes relations avec Vladimir Poutine pour être sûr que les Samis russes puissent continuer à collaborer avec le Sami Council qui n'est donc, comme vous l'avez compris, pas basé en Russie. Et enfin, il y a Répon qui est la seule association de peuples autochtones qu'on pourrait qualifier de nationales, mais dans laquelle vous avez des peuples comme par exemple les Tchouches qui vont être, eux, de toute manière, à minima binationales. Au Conseil de l'Arctique, donc, il y a ces peuples autochtones qui ont la chance, et c'est unique au monde, d'être à la même table, au même niveau que les États. Pour autant, comme le Conseil de l'Arctique n'est pas une organisation internationale, comme on le pense souvent, mais est un forum intergouvernemental, il n'y a que les gouvernements qui peuvent véritablement prendre des décisions. Donc même si les peuples autochtones sont à la table, ils n'ont pas de droit de vote. Alors ça se passe sous consensus, donc il n'y a pas tellement de vote, mais vous comprenez l'idée, ils ne sont pas décisionnaires. Ceux qui sont décisionnaires, ce sont donc ces 8 États, qui, à partir de 1987-1989, se sont insérés dans une forme de proto-gouvernance de la zone arctique qui est devenue formelle à partir de 1996 sous la forme du Conseil de l'Arctique dont vous voyez le logo juste ici. Donc ces 8 pays membres sont des pays qui ont des territoires terrestres ou maritimes au nord du cercle polaire. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment purement arbitraire. Mais c'était la seule chose qui, au moment de la guerre froide, ou à la fin de la guerre froide en tout cas, pouvait permettre de créer un organe de coopération régionale qui était vu comme légitime par tous les pays de la zone. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le cercle polaire arctique. Ensuite, vous avez des pays observateurs qui sont arrivés au fur et à mesure. Nous, la France, nous sommes arrivés en 2000, le Luxembourg n'y est toujours pas arrivé. Ce n'est pas grave, ce ne serait pas trop tôt, ce serait bien, ça pourrait avoir un nombre de plus. Mais ce qui est important surtout, c'est l'arrivée en 2013 d'une grande cohorte de 5 pays asiatiques pour la première fois, plus l'Italie. Ça, ça a changé la donne. Et puis, il y a une autre donne qui a changé, c'est l'arrivée de la Suisse en 2017, et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le Conseil de l'Arctique, même si on en entend finalement pas mal parler, et pas que grâce ou à cause de notre ambassadrice de France, pour l'Arctique, c'est un problème en Arctique qui ne soit pas connu, ce Conseil. Ici, vous avez un sondage qui a été fait par la Gordon Foundation, donc canadien, en 2015, et qui prend la suite de la première vague faite en 2010. On est en 2015, les Canadiens viennent de présider le Conseil de l'Arctique pendant 2 ans, et ce que vous voyez tout simplement, c'est des chiffres absolument désastreux. Ici, là par exemple, si on prend donc les Canadiens du Sud, 2042 interrogés, en 2010, ils étaient 15% à dire « nous voyons clairement ce qu'est le Conseil de l'Arctique ». 5 ans plus tard, après 2 ans notamment de présidence canadienne, ils ne sont plus que 8%. Et cette dimension-là, cette perte de connaissances, on la retrouve un peu partout, et ça, ça pose problème, parce que ça veut dire que l'organe de diplomatie de la région le plus prépondérant, bah finalement, il est relativement mal connu par les gens de l'Arctique eux-mêmes. Mais il y a des choses qu'on connaît mal, nous aussi, du Sud. Et typiquement, quand on parle du Groenland, j'en reparlerai beaucoup demain, quand on parlera donc des terres rares et la transition énergétique, quand on parle du Groenland, on voit l'image d'Épinal classique dans les reportages, à la télé, voilà, le chasseur qui pleure, le vieil Inuit ridé qui vous dit « dans mon temps, c'était pas comme ça », etc. Et c'est très bien, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie, ou plutôt ce que les journalistes ont tendance à occulter systématiquement, c'est le fait de rappeler qu'il y a déjà des millionnaires du changement climatique au Groenland. C'est pas juste un titre putaclic, c'est une vérité. Des chasseurs qui sont devenus pêcheurs et qui, pour certains, se sont organisés en coopérative et qui petit à petit ont monté des business et vendent aujourd'hui à Royal Greenland ou à d'autres qui vendent à l'étranger et qui se font finalement pas mal d'argent et qui d'ailleurs retapent leur Mercedes puisqu'on en parlait à midi. Alors tout ça, quand on en parle comme ça de manière un peu abstraite, je propose de prendre un pas de côté et de se poser la question de savoir finalement, mais alors où ça commence et où ça finit l'Arctique ? Parce qu'il y a une pléthore d'acteurs dans la région, il y a pléthore d'acteurs qui arrivent en dehors de la région et qui s'insère. Alors, je vous propose de faire une comparaison entre deux cartes différentes. Ici, à gauche, vous avez la carte, qui date de 2018, de l'accord de coopération scientifique renforcée en Arctique. Donc, c'est un accord entre les 8 pays de l'Arctique qui, donc, du coup, ont été invités chacun à définir ce qu'ils considèrent comme étant leur Arctique, d'un point de vue à la fois maritime, comme vous le voyez, et aussi terrestre. Et de cette manière, ça a été finalement la première fois que les 8 pays de l'Arctique ont été invités à définir finalement leur Arctique. Et vous voyez qu'il n'y a aucune cohérence, quoi. Il n'y a aucune cohérence nulle part. Et si on va plus loin, dans le Conseil de l'Arctique, vous avez 6 groupes de travail, et sur ces 6 groupes de travail, vous avez 5 définitions différentes de l'Arctique. Donc du coup, ça n'aide pas. Et puis, à droite, vous avez quelque chose qui va parler beaucoup plus, notamment aux industriels et aux investisseurs. Si vous voulez développer du pétrole, du gaz, des mines, que sais-je en Arctique, des infrastructures, du BTP, que sais-je, vous allez forcément, à un moment, faire des forages, vous allez forcément ancrer votre infrastructure dans le sol. Bon. Et vous allez, au-delà de l'infrastructure dans le sol, tout simplement avoir des conditions d'exploitation en surface, donc, qui vont être relativement particulières. Hein. Évidemment, il va y avoir plus de neige par-ci, plus de vent par-là, plus de nuits polaires, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut arriver à prendre en compte, c'est que ces cartes géopolitiques-là, les industriels, ils s'en moquent complètement. Ce qui compte, c'est les conditions opérationnelles d'exploitation. Ce qui fait que, quand par exemple vous êtes en Russie, les Russes vous disent, ici, alors là, si vous êtes sur la côte arctique, c'est en effet la Russian Zone, la Arctic Zone of the Russian Federation. Voilà, donc ça, c'est la fameuse AZRF, Arctic Zone of the Russian Federation. Mais si en fait vous êtes au cœur de la Sibérie, vous êtes au sud du cercle polaire, et que vous avez la malchance qu'il fasse moins 60 l'hiver, et que vous avez du permafrost, etc., etc., ben, en réalité, il fait plus froid et c'est plus compliqué d'exploiter au sud du cercle polaire qu'au niveau de la côte. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'Arctique, ce n'est pas une question de latitude. Et ce n'est pas, en gros, plus on monte, plus c'est complexe, plus c'est froid et plus c'est cher. Ça dépend véritablement de chaque sous-région. Et quand on étudie la concentration de la glace, là, on va se contenter de la banquise, hein, donc de la glace de mer, l'hiver, on voit bien, parce que là, vous avez donc 2017, 2018, 2019, la moyenne du mois de février, qui est le mois où vous avez le plus d'englacement. Et ce que vous voyez, c'est que, en réalité, quand je disais qu'en 2049, on allait être dans un Arctique post-polaire, bah, en fait, on y est déjà, quoi. On y est déjà ici, en mer de Barents, jusqu'en Nouvelle-Zemble. On est au cœur de l'hiver, hein, je rappelle. Hein. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de glace là, il n'y a pas de glace toute l'année. Ici, au sud-ouest du Groenland, même topo, même s'il y a des variations évidemment annuelles. Hein. La dynamique est évidemment là. Et en mer de Bering, et notamment pour nos amis les Aléoutes, c'est pareil. Donc ces zones-là sont déjà les zones post-polaires. Toute l'année, il n'y a plus de glace, avec des conséquences qui ne sont pas que climatiques, mais aussi évidemment stratégiques. Et puis il y a des zones qui sont en fait non pas dans la centralité de l'Arctique, au nord du cercle polaire, comme ce qu'on a essayé de montrer à l'instant, qui sont au sud du cercle polaire, mais qui connaissent un englacement saisonnier qu'ils ne connaissaient pas forcément avant. Donc ça va être des petites glaces, 20 cm, 30 cm, 50 cm, c'est pas grand-chose en soi. Sauf qu'il y en a de plus en plus l'hiver, et ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment le gérer, ils ne sont pas prêts. Et ces deux zones-là qui nous intéressent, c'est la mer d'Okhotsk, jusqu'à Hokkaido, au Japon donc, et c'est l'estuaire du Saint-Laurent, où nous avons évidemment nos amis canadiens, mais aussi Saint-Pierre et Miquelon, que c'est chez nous. Pas luxembourgeois, bien sûr, mais que c'est chez nous. Vous savez d'où je viens. Donc du coup, cette fonte des glaces, elle n'est pas uniforme, comme vous le voyez, et il ne faut pas prendre, parce qu'on ne peut pas prendre l'Arctique comme une espèce de monolithique, comme un espèce de monolithique qu'on pourrait voir et globaliser. Et du coup, tout l'afflux des puissances du Sud qui émergent d'un point de vue soit économique, industriel, soit politique, soit militaire, soit les deux, ou même les trois, ils arrivent avec une autre vision du monde. Et cette carte-là, c'est une carte qui a été produite par l'Institut de géodésie chinoise en 2013 et qui se veut être une carte révolutionnaire pour changer la vision du monde qu'on va éduquer, qu'on va donner, inculquer, pardon, aux jeunes Chinois. Cette carte-là, ils l'appellent la carte du monde verticale. Et elle est fascinante puisqu'elle change notre vision du monde, d'une vision est-ouest à une vision nord-sud. Et il y a deux éléments importants à noter ici. Le premier élément, c'est que le choix cartographique qui a été fait ici, ça a été de couper évidemment le continent américain. Voilà. Donc du coup, ils sont à l'autre bout. Hein. Donc ça vous permet de vous d'avoir une image mentale du monde dans laquelle, ben, finalement, le continent américain n'est ni consolidé stratégiquement, ni véritablement une somme aussi importante que ce que vous avez là. Et le deuxième truc qui nous intéresse le plus, finalement, c'est, et ça a été clairement dit par l'Institut de géodésie chinoise, l'alignement des trois pôles. L'Arctique, l'Antarctique et le Tibet Himalaya. Les trois pôles. Et l'idée de ces trois pôles, c'est de dire que si l'Arctique fond, c'est grave, si l'Antarctique fond, c'est grave, mais si le Tibet Himalaya fond, c'est grave tout pareil. C'est grave tout pareil. Et si vous êtes par exemple au Bangladesh, alors Bangladesh, on en parle beaucoup par rapport à la montée du niveau des mers, puisqu'évidemment la mer monte et en plus le Bangladesh s'affaisse, mais si en plus de ça, le Bangladesh se prend des torrents d'eau qui viennent de l'Himalaya et qu'ils le prennent en fait en étau, il n'y a plus de Bangladesh du tout. Et là, ce n'est pas 200 millions de personnes qu'il va falloir gérer, ça va être plus. Donc d'un point de vue stratégique ici, les Chinois et les Indiens sont rentrés aussi dans cette logique-là du troisième pôle, les Népalais aussi maintenant, même s'ils ne sont pas observateurs du Conseil de l'Arctique, parlent d'un troisième pôle, c'est important. Et nous en Europe, on a la même chose, c'est-à-dire que la Suisse, quand elle est arrivée, j'y arrive, vous voyez, quand la Suisse a candidaté au Conseil de l'Arctique en 2015, elle a dit quoi ? Elle a dit « Nous sommes une nation arctique verticale ». C'est eux là. Et c'est pas con du tout. Les Suisses arrivent et disent « Mais il n'y a aucune différence finalement entre l'Arctique au niveau de la mer et puis l'englacement que nous connaissons nous à 3500 mètres d'altitude ». Et ça, ça change encore une fois tout. Et ça vous montre aussi que ce n'est pas juste une lubie ou une tentative de pénétration stratégique par des puissances asiatiques. C'est quelque chose qui peut être partagé par d'autres, y compris chez nous. Alors je vous propose, si le son marche, de regarder un petit peu comment nos amis chinois extrapolent et exploitent finalement ce changement d'approche post-polaire en Arctique. Alors là, on va vous montrer un petit reportage avec ce brave Guan Yang de CCTV, donc le média d'État chinois, qui va vous parler depuis la Arctic Town en Chine, dans la province du Heilongjiang. Alors, ça n'a pas l'air de marcher. C'est pas grave, je vais faire 100. Ce que va vous dire Guan Yang, c'est qu'il y a un comté, une petite ville de 1000 habitants qui a été construite dans les années 60, qui est en fait tout au nord de la Chine. C'est le point septentrional le plus au nord de la Chine, à la frontière avec la Russie. Et dans ce coin-là, aujourd'hui, vous connaissez les températures l'hiver qui peuvent descendre à moins 35, moins 40, moins 42, moins 45. Vous avez du permafrost. Et vous avez, je ne sais plus, un mètre de neige ou un mètre deux de neige. Bon. Et du coup, ce qu'ils disent, au-delà du fait qu'ils en développent, ils développent tout un concept touristique autour de ça, c'est que finalement, cette ville-là, qui s'appelle Mohe, dans la province du Heilongjiang, chinoise, à 53 degrés nord, à 1500 km du cercle polaire, bah finalement, elle est plus arctique que, par exemple, la ville norvégienne de Tromsø, qui est à 73 degrés nord, et où vous avez le siège du Conseil de l'Arctique, où il n'y a pas de glace toute l'année. Et en soi, est-ce qu'on peut les blâmer ? Ils tentent tout. Ils tentent tout. Et ce n'est pas les seuls, parce que si on revient au Conseil de l'Arctique, il y a beaucoup de candidats aujourd'hui. Vous avez des candidats un petit peu logiques, dirons-nous, comme l'Estonie qui s'est déclarée la semaine dernière. Mais vous avez aussi le Mexique, la Grèce, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça vous paraît peut-être exotique, mais c'est important. Et c'est important parce que ça nous permet de lier la question stratégique avec des enjeux économiques tout simplement. Vous le savez, en Arctique, il y a quatre grandes routes maritimes principales. Le passage du nord-est ici côté russe, le passage du nord-ouest côté canadien avec la route sud et la route nord, le Arctic Bridge, qu'on va qualifier de négligeable, vous allez voir tout à l'heure pourquoi, et enfin le passage Arctique central tel que les Chinois l'ont rebaptisé finalement depuis maintenant 2-3 ans. Nous appelions ça avant ça la route transpolaire, donc qui passe par le pôle. Alors vous allez me dire, le transport maritime, on en parle beaucoup, ça fait longtemps qu'on promet qu'il va y avoir peut-être une autoroute, etc. Alors, en 2015, on faisait un petit déjeuner à Bruxelles avec des hauts fonctionnaires de la Commission, et ils nous disaient, voilà, nous, notre hypothèse de travail, c'est qu'il y aura à peu près 2000 navires en Arctique à l'horizon 2030-2035. Voilà. 2 ans plus tard, selon des chiffres compilés par le Conseil de l'Arctique, hein, ce n'est pas moi qui les ai inventés, on était quasiment à 2000 navires dans la zone d'application du Code polaire. Le Code polaire, c'est quoi ? C'est un code juridique qui a été créé par l'Organisation maritime internationale, agence de l'ONU, et qui est entré en vigueur maintenant il y a un peu moins de 2 ans, Et ce code polaire, ce qui ne prend pas en compte, c'est notamment la zone post-polaire que j'évoquais tout à l'heure de la mer de Barents, dans laquelle vous avez pourtant beaucoup d'activités. Donc autant vous dire que là, c'est un chiffre, en fait, on a dépassé les 2000 largement, si on prend les navires qui sont passés par la mer de Barents. Et vous voyez qu'il y a un quart des navires qui passent en Arctique qui proviennent déjà de pays non arctiques. Alors ils proviennent principalement de Panama, des Bahamas, des îles Marshall, du Libéria, de Chypre. Bref, vous avez reconnu les traditionnels pavillons de complaisance. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut comparer, évidemment, c'est avec la puissance des pays arctiques eux-mêmes. Et là, vous voyez à quel point la Russie est ahead of the game, très, 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 très loin. La Russie, évidemment, a un savoir-faire historique. Elle a un savoir-faire qui se démultiplie depuis maintenant une dizaine, vingtaine d'années. Donc la Russie est loin devant. Les États-Unis suivent, le Canada, c'est pas loin. La Norvège, c'est pas loin non plus. Bref, vous voyez un petit peu la logique. La Chine reste encore un petit joueur pour l'instant. Mais on le garde en tête pour quelques minutes. Alors on me dit, oui, c'est pas une autoroute maritime, c'est compliqué, on peut pas y naviguer toute l'année, etc. etc. Ben, en fait, si, on peut y naviguer toute l'année. C'est ce que vous voyez ici sur la route maritime du Nord, qui est donc la partie orientale du passage du Nord-Est russe. Vous avez des navires qui passent toute l'année. Alors, oui, j'en conviens, au mois de janvier, février, au cœur de l'hiver, il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Donc du coup, il faut se focaliser pour comprendre le développement de l'Arctique sur les bons chiffres. C'est-à-dire que si on prend par exemple les demandes de permis de navigation sur cette route maritime du Nord, donc je répète, la partie orientale, la plus complexe, celle où il y a le plus de glace du passage du Nord-Est russe. Ben, si on prend les demandes de permis de navigation, ce n'est pas folichon, ça ne grandit pas tant que ça. Et si on prend les transits intercontinentaux sur ces dernières années, ce n'est pas mieux non plus. Mais par contre, si on prend le cargo transporté en volume, là, on comprend la dynamique. Et là, le chiffre que vous avez là, de 40 millions de tonnes en 2021, c'est une estimation qui avait été sortie par les Russes de Rosatom Flotte, donc la boîte russe d'État, bien sûr, qui est gestionnaire de la flotte de brise-glace nucléaire russe. Cette estimation-là de 40 millions de tonnes, a priori, elle est sous-évaluée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les 5 dernières années, à chaque fois qu'ils ont fait des estimations, la réalité s'est montrée être au-dessus des estimations. Et cette année, on n'y coupe pas encore, puisque cette année, alors qu'ils estimaient 28 millions de tonnes, 29 millions de tonnes, on devrait dépasser la barre des 30 millions de tonnes, qui est une barre relativement symbolique, surtout quand on se rappelle que, même pas 3 ans en arrière, on en était à peine à 7 millions de tonnes. Voilà. Mais vous allez me dire, comment on navigue en Arctique ? C'est quoi, en fait, le business model ? Voilà, ça c'est ma spécialité. Donc, le business model, c'est le suivant. Eh bien, c'est pas ça. Tout simplement. L'idée, c'est pas du tout de prendre un navire depuis un port asiatique du Nord-Est, que ce soit Shanghai, Dalian, Busan, Yokohama. C'est pas du tout l'idée de lui faire faire à lui tout seul le trajet tout le long jusqu'en Europe et puis revenir. Le business model, c'est celui-là. Le business model consiste à dire, dans un premier temps, en effet, alors que le marché est à peine en train de grandir, on va prendre un navire dans un des ports du nord-est asiatique et puis on va l'amener en Europe, il va faire des rotations comme ça. Et il y a une étude chinoise l'année dernière faite par des chercheurs en lien avec le numéro 3 mondial du transport maritime, COSCO, numéro 1 chinois, société d'État bien sûr, qui a montré que le business model que je vous ai montré là, celui-ci, il est déjà rentable cette année, les mois d'été. Parce que sur les 3 mois d'été où vous n'avez pas de glace sur le passage du Nord-Est, ben, avec le gain de distance et de temps, vous pouvez faire 3 rotations complètes, alors que par le sud, vous ne pouvez faire que 2 rotations et demie. Donc du coup, c'est cette demi-rotation-là qui génère la rentabilité du Nord par rapport au Sud. Donc on sait que ça, c'est le point de départ. Et du coup, les Russes, les Chinois, les Sud-Coréens, les Singapouriens, mais aussi les Dubaïotes avec DP World, la grosse boîte de logistique, bien sûr, qui gère le port de Dubaï. Les Alaskans, les peuples autochtones d'Alaska qui gèrent notamment les futurs ports de transbordement arctique, etc., etc. Tout ce monde l'a dit, le modèle, il est évidemment sous-optimal. On ne fait que commencer. Mais si on voit à quel point déjà le modèle sous-optimal est intéressant, il n'y a plus qu'à l'optimiser. Et donc, du coup, l'optimisation de base, je ne vous parle pas là encore même des technologies de construction de navires, des assurances, etc. Je passe tout ça en sous-silence. Si on se focalise uniquement sur l'organisation géo-économique du marché, l'idée, c'est de faire tout simplement des porte-containers brise-glace qui partent de la zone de l'Arctique Pacifique ici vers la zone de l'Arctique Atlantique. Mais ces navires brise-glace ne sortiraient jamais de l'Arctique, ils ne feraient que la navette, en réalité. Là où ils sont donc en utilisation optimale. Et l'idée, c'est de ramener des marchandises sur ces ports qui pourraient devenir donc des hubs de transbordement à partir de navires tout à fait classiques et conventionnels qui existent déjà. Par exemple, sur cette route transpacifique nord qui relie la côte ouest nord-américaine à la côte est asiatique ici, vous avez déjà 7000 navires par jour qui passent. Pas par an, par jour. Et ces 7000 navires, ils sont remplis en moyenne à 80%. Donc il y a même un potentiel de juste gérer sur les 20% qui restent, en optimisant évidemment les flux portuaires, etc., pour pas qu'ils restent trop longtemps sur ces potentiels hubs, de manière à ramener des marchandises de manière conventionnelle, sans limite de taille, ici, puis de les transborder sur des navires brise-glace, et après de faire la même chose de l'autre côté, en Europe. Et ici, en Europe, vous avez un acteur en particulier, l'Islande, qui dit « Ah, mais moi, je suis tellement bien placé que je pourrais même potentiellement à la fois servir le marché nord-européen, mais aussi servir le marché de la côte est américaine. » Et là, je faisais une conférence en République dominicaine pour les armateurs de la Caraïbe. Je peux vous dire qu'ils avaient un petit peu les chocottes de se dire qu'en 2049-2050, ils pourraient avoir une partie du trafic de Panama qui pourrait passer par là. Et du coup, ça engage évidemment des enjeux stratégiques importants pour la Russie. Se projeter au nord est donc redevenu une nécessité. Sous la guerre froide, c'était une nécessité uniquement militaro-militaire sur une base identitaire et idéologique par rapport aux États-Unis et à l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, c'est avant tout pour possiblement, d'une part, viabiliser cette route de manière à montrer aux armateurs internationaux qu'ils peuvent l'utiliser, et deuxièmement, de pouvoir la sécuriser au long cours. Donc se projeter au nord est une nécessité. Et pour se projeter et viabiliser, vous avez des bases militaires, vous avez des centres de recherche marine qu'on a évoqués tout à l'heure, et vous avez évidemment ces nouveaux brise-glaces. Le premier va être livré, alors il ne sera pas livré en 2019 finalement, il a pris un peu de retard, il sera livré l'année prochaine, en 2020. Mais donc ce Universal Atomic Icebreaker, avec 60 mégawatts, c'est-à-dire deux fois plus de puissance que le plus gros navire russe actuel, le 50 ans de victoire, qui va jusqu'au pôle Nord, et sur lequel vous pouvez monter pour 20 000 dollars avec Quark Expedition, si vous voulez pour la pub, ce navire-là, il pourra tout simplement se propulser et casser deux fois plus de glace. L'idée étant de faire des convois. Des convois qui pourraient potentiellement devenir d'ailleurs être des convois autonomes. Voilà, si vous voulez qu'on rentre dans les détails là-dessus, dans les questions, on peut le faire. Et puis, la deuxième étape est déjà préparée. Si vous voulez mes slides, je vous les donne très volontiers. Si vous voulez, la deuxième étape est déjà préparée, puisque ce Universal Atomic Icebreaker, il va être très efficace sur la zone autour du détroit de Bering et sur la zone autour de la Nouvelle-Zemble, donc aux deux extrémités de la route maritime du Nord qu'on a évoquée tout à l'heure. Mais il y a la zone centrale de cette route maritime du Nord, on va dire l'intérieur de l'Arctique. Et pour l'intérieur de l'Arctique, ça ne suffira peut-être pas, ou en tout cas peut-être pas pour l'ouvrir toute l'année. Donc du coup, nos amis russes proposent de construire trois brise-glaces de ce type-là, avec deux cœurs nucléaires toujours, mais 120 MW de puissance, c'est-à-dire quatre fois plus fort que le plus gros navire qu'ils ont actuellement aujourd'hui, pour ouvrir cette zone toute l'année et assurer le trafic maritime sur le business model qu'on a évoqué tout à l'heure. Pour ce faire, il faut aussi qu'ils comprennent, avant toute chose, comment fonctionnent les glaces, quel est le comportement, pas juste en été, mais aussi en hiver, savoir comment l'océan se comporte, et ainsi de suite. Du coup, les Russes proposent de développer, dès cette année, des plateformes de recherche arctique qui seraient localisées en zone arctique et qui ne bougeraient pas. Là où, par exemple, nous, en Europe, on envoie un Polar Stern à plus de 25, avec, c'est l'expédition Mosaïque qui est partie il y a un mois, qui va durer un an, qui va dériver dans les glaces. Mais le problème, c'est que nous, c'est un one-shot qui coûte la peau des fesses. Là, les Russes, ça ne va pas coûter trop cher, à peu près 100 millions d'euros par unité, et ils vont pouvoir en installer autant qu'ils veulent, parce que, en gros, construire ça, c'est comme construire un grand brise-glace. Ils savent faire. Donc, et c'est ma conclusion, le marché arctique, à l'horizon 2049, finalement, il ressemblera, ou il devrait ressembler, s'il n'y a pas de réenglacement, faute, par exemple, à des rétroactions qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à quantifier, comme par exemple la fonte de la calotte groenlandaise, qui pourrait ralentir le Gulf Stream et donc, par voie de conséquence, peut-être réenglacer tout ou partie de l'Arctique occidental russe. Bon, les Russes en ont peur de ça, et ils en ont d'autant plus peur que leur flotte du Nord, qui est basée ici, où il y a les principales ressources sous-marinières et nucléaires de l'armée russe, pour la marine bien sûr, tout simplement pourraient se retrouver piégés à nouveau. Bon, je passe sur ce détail, on reviendra peut-être dessus plus tard ou même demain matin. Mais ce qui est important donc, c'est de voir à quel point finalement cet article-là, à une vitesse grand V, comme on ne l'a jamais connu dans l'histoire moderne de l'humanité sur les 12 000 dernières années, comme dirait Scott Minard, le Chief Investment Officer de Guggenheim Partners, qui pèse donc plus de 300 milliards de dollars d'actifs. Eh bien, tout simplement, lui, il appelle ça une opportunité de business, la plus grande opportunité de business depuis 12 000 ans pour l'humanité. Moi, je vous dis juste, c'est peut-être notre plus grande menace. Et ça, ben, il s'agirait de ne pas le moquer, ni d'en être indifférent. Merci de votre attention.